Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir sur le podcast Activation Mystique. J'espère que vous aimez le contenu, que ça vous fait du bien. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai envie de parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup, qui me passionne et en fait, j'ai envie de parler de portails d'activation qui sont cachés dans les rites de passage de naissance et de mort. Puis la raison pour laquelle je veux venir partager ça, c'est que dans le fond, avec ce qu'on vit actuellement, depuis les années 50, il y a vraiment une hyper-médicalisation au niveau des naissances. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une hyper-médicalisation aussi au niveau de la mort. J'ai vécu en fait deux accouchements, donc un en 2017, un en 2019, et j'ai accompagné ma maman dans le passage qui est la mort le 10 août dernier, donc le 10 août 2020. Fait que pour moi, ça a été des super grands portails d'activation. Puis j'ai envie de venir partager en fait l'histoire, puis vraiment ce que ça m'a appris, parce que je me rends compte que, mettons, je repense à ce que j'avais dans la tête, mettons, avant d'avoir mon premier enfant, puis je crois pas que c'est des choses que tu sais, ben, premièrement, je les avais pas expérimentées, donc je pouvais pas réellement savoir dans la praticalité de la chose. Que c'était hyper médicalisé. J'étais très, très, très consciente au niveau de tout ce qui est santé, puisque en ayant fait ma formation de naturopathe, bien, c'est sûr que j'étais aux premières loges pour voir certaines incohérences au niveau de la médecine traditionnelle dans ma pratique. Donc, pour moi, ça, avoir une... faire des choix de santé un peu plus marginaux, c'était vraiment quelque chose qui était comme super facile pour moi parce que je baigne dans ce milieu-là depuis comme 2011. Puis dans le fond, j'ai vraiment grandi dans une famille comme ultra grano. Tu sais, ma mère nous soignait à l'homéopathie, aux huiles essentielles. On avait même une médecin là, homéopathe, là, une médecin de famille. Donc, fait que pour moi, c'est quelque chose comme qui est super, tu sais, qui va de soi. Puis c'était facile puisque je n'étais jamais confrontée directement au système médical traditionnel. Donc, j'avais jamais besoin de m'expliquer, j'avais jamais besoin, tu sais, de m'affirmer plus qu'il faut, en fait. Donc, c'est ça. Fait que la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que je souhaite que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants soient capables de faire un choix super éclairé par rapport à ce qu'elles vont décider de faire, par rapport à, en fait, à ce qu'elles vont s'offrir comme suivi d'accouchement. Il y en a encore qui ressentent vraiment une crainte qui est partagée par une grande partie de la population pour ce qui est des sages-femmes. Puis dans le sens, quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais enceinte de Léon, puis que j'allais faire mon suivi de grossesse à la maison de naissance avec les sages-femmes, tout le monde était comme « Ah oh, ben oui, toi, la naturopathe grano hippie de la famille, genre, of course, c'est sûr qu'elle va faire ça. » Puis comme personne n'a posé de questions, personne n'a émis de... mais pas de doute, mais de... comme son opinion, dans le fond. Parce que moi, quand je prends une décision par rapport à la santé, je suis toujours très tranchante, très tranchée, puis comme, tu sais, je fonce la tête baissée, puis comme, moi, j'ai décidé ça, puis ça va être ça, puis c'est tout, là. Donc, ça, c'est mon petit côté bélier. Bref. Puis là, je me rendais compte, en regardant un petit peu les décisions que les femmes prenaient autour de moi, je me rendais compte que c'était pas nécessairement des choix éclairés. C'était beaucoup... J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de poids, de crainte qui venait souvent aussi beaucoup des conjoints. Puis de dire, ben là, non, là, moi, je veux que mon bébé soit en sécurité, là, parce que là, genre, s'il naît à la maison ou en maison de naissance, genre, ils sont pas qualifiés, puis comme, je veux pas qu'il arrive rien, fait que là, on va aller à l'hôpital, ça va être bien plus safe. Puis moi, ça venait vraiment me heurter profondément, parce que premièrement, c'est zéro fondé, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup moins d'intervention qui est pratiquée en maison de naissance, donc beaucoup moins de risques qui sont souvent causés par les interventions. Puis les sages-femmes, je veux dire, sont ultra, ultra, ultra qualifiées pour accompagner une grossesse et un accouchement. C'est vraiment des spécialistes de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas dans le... C'était comme super loin, là, dans la psyché humaine, là, comme vraiment une genre de crainte de la mort, t'sais, une crainte que mon bébé meure, puis soit pas en sécurité. Puis je suis pas en train de dire ça pour juger, je fais juste vraiment comme remarquer que c'est beaucoup ça qui ressortait, une espèce de manque de confiance, puis de manque de connaissance en qu'est-ce que c'est réellement un suivi sage-femme. Bref. Donc, le but pour moi de raconter mon expérience ici, c'est vraiment de dire, ben si vous vous sentez appelé par les sages-femmes qui font partie du système médical, là, soit dit en passant aujourd'hui, ben allez-y, tu sais. Fait que le but, c'est vraiment d'écouter son intuition, puis de faire qu'est-ce que votre intuition, qu'est-ce que votre gut feeling, qu'est-ce que votre puissance intérieure vous dit. De pas juste écouter moi ou une fille qui dit le contraire. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment, je pense que le partage d'expérience, c'est vraiment à ça qui sert. On va écouter le partage d'expérience d'une personne, puis ça va nous amener à nous positionner. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Donc, moi, quand je suis tombée enceinte de Léon, ben, j'étais super contente, j'étais déjà en santé, donc j'ai pu réussir à avoir un suivi avec les sages-femmes. Ça s'est super bien passé jusqu'au moment où est-ce que le travail a commencé. Puis tu sais, je veux dire, j'étais dans une relation pleine d'amour, super équilibrée, super saine. On voulait un enfant. L'enfant est arrivé. On était vraiment excités d'avoir un petit gars. Donc, c'était vraiment tout. Tu sais, tout était parfait. Tout était propice à ce que tout se passe bien. Donc, là où ça a été un petit peu difficile. Quand le travail a commencé, en fait, ça a commencé. Puis moi, j'ai toujours eu mes bébés vraiment comme à terme. Là, t'sais, dans le fond, Léon, il était dû, je pense, le 17, il est né le 18. Donc, vraiment comme j'ai des bébés que j'aime appeler très ponctuels. Donc, quand le travail a commencé, en fait, je m'en allais me coucher le vendredi soir, là, vers 9 h. J'étais avec une de mes amies. Je commençais à être vraiment fatiguée, mais on avait du plaisir, on jasait, donc je me suis dit, oh, je vais toffer encore un peu, tu sais. Et là, aussitôt que mon amie est partie, ça a commencé. Donc là, j'ai vraiment senti que c'était la vraie fois, là, tu sais, que c'était pas des petites contractions qui finissent par s'en aller, là. Donc, j'ai appelé mon mari qui travaillait. Pour qu'il rentre à la maison. Il était comme rendu, je pense, 9 h 30, 10 h le vendredi soir. Donc, il était un peu affolé. Il voulait finir son shift. Finalement, tout le monde au resto, il a dit: Non, 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 tu t'en vas, ça n'a pas d'allure, tu peux pas finir ton shift. On s'en fout, on va finir, puis comme va-t'en. Donc, il est arrivé à la maison. Fait que, c'est ça, on avait eu comme une super grosse journée. Il était parti travailler. Moi aussi, j'avais une grosse journée. On était comme allés à la montagne, on avait bien profité de notre journée. Fait que j'étais rendue vraiment, il était comme 10 h, 11 h le soir, puis j'étais vraiment rendue super fatiguée. Puis là, c'est comme: Non, non, là, girl, ton travail commence maintenant. Donc, je pense pendant les quelques premières heures, je prenais des bains. Je pense que je gérais quand même relativement bien. Puis vers à peu près 4 h du matin, on a décidé de partir à la maison de naissance qui était à une quinzaine de minutes de voiture de chez moi. Là, j'ai commencé à trouver ça vraiment moins cool parce que ça faisait premièrement crissement mal, là, dans le sens où à l'intérieur de moi, là, je vais vous dire honnêtement, là, il y avait une partie de moi qui se sentait trahie. La seule chose qui me passait dans la tête, c'était comment ça se fait qu'il n'y a personne qui m'a dit que ça allait faire mal de même. Je me sentais vraiment trahie. Je me disais, mais ça se peut pas. Mais dans les films, la fille a crié 2 secondes puis elle accouche. Puis... Mais j'étais comme, mais comment ça se fait? T'sais, on, je veux dire, on le sait, là, on se dit, ouais, ça fait mal. OK, mais mal de même, genre, non, il n'y avait personne, vraiment personne qui m'avait comme averti à ce point-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, je le dis avec du recul, puis je suis comme, ça fait partie de mon histoire, ça a fait partie de mon apprentissage, puis tout était parfait. Mais cette réalisation-là m'a vraiment, comme on dirait, troué le cœur. Je me sentais seule. Je me sentais comme, comme une femme seule qui va faire le plus gros effort de sa vie, puis que c'est comme, surprise! Genre, personne t'a averti qu'il fallait que tu prépares ton mental parce que dans le fond, c'était la plus grosse épreuve physique de ta vie. Tu sais, comme les athlètes, ils s'entraînent, là, mais ils entraînent aussi leur mental, leurs émotions. Mais là, c'est comme, non. On a mesuré la bédaine. On a fait des prises de sang. On a regardé tous les paramètres physiologiques. Mais on a oublié. On a oublié de transmettre cette information-là qui est capitale, puis c'est là où est-ce que mon podcast prend toute son importance. On a oublié de transmettre par la parole des choses que seules les femmes comprennent, de femme à femme, en dehors des ordres professionnels, en dehors des rendez-vous de consultation, en dehors de toute la médicalisation de ce passage de la vie. Il n'y a personne qui me l'avait dit. Donc, le partage oral est si important. Si j'avais accouché il y a 150 ans, j'aurais été avec ma cousine, mes soeurs, ma mère, ma voisine, mes tantes. J'aurais eu cette espèce d'enveloppement, de présence féminine qui m'aurait probablement rassurée. Mais ça, ce savoir-là et ce partage-là, s'est évaporé quand on a décidé ou qu'on s'est laissé porter par la vague de médicalisation au niveau de l'accouchement. Puis c'est correct dans le sens où je ne suis pas en train de critiquer pour vouloir sortir les armes puis comme dire c'est mal. Non, non, non. Ça l'a sauvé possiblement des femmes, des enfants. Parfait. Mais là où est-ce que je veux amener la nuance? C'est où est-ce que accoucher, c'est un acte physiologique. Puis il y a tout un monde imaginaire ou un espèce de folklore, j'ai envie de dire, ou un espèce de légende au niveau de la puissance de la femme qu'on a remis aveuglément dans les mains du patriarcat qui gère les institutions médicales et on a dit, c'est beau, je ne sais plus rien, accouchez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que je vous souhaite. Donc voilà. Fait que là, je suis arrivée à la maison de naissance. J'étais dépassée complètement par la douleur. Je résistais, mais d'une façon absolument musclée et terrifiante. Donc, moi, ce que je dis souvent quand je raconte mon accouchement rapidement, c'est que je dis qu'à mon premier accouchement, j'ai mesuré l'ampleur de ma résistance. J'avais tellement peur de mourir que je me disais, mais non, mais ça, ici, il faut pas que ça passe, il faut pas que ça sorte. Je vais complètement ouvrir en deux, mon corps va se déchiqueter, je vais me faire couper en deux. C'est carrément la mémoire ou la vision que j'avais d'imprégner à l'intérieur de mon corps. Puis, si vous avez écouté mon premier podcast, je pense que j'en parle dans le sens où je crois que dans mes mémoires cellulaires, j'ai effectivement probablement été découpée en deux, ou je sais pas, écartelée, ou whatever, la sorte de torture qui existait dans ce temps-là, dans une vie antérieure, parce que j'avais la ferme certitude, je me disais, mais je vais carrément y passer. Donc, probablement que ça m'était déjà arrivé. Mais je peux vous dire que le corps s'en rappelle. Mais quand on a... je veux dire, j'avais pratiqué le yoga, j'étais pas comme... J'étais pas tant novice à comprendre les messages de mon corps, mais ça a été d'une force et d'une puissance tellement soudaine que c'était comme... C'était trop. C'était trop pour mon cerveau, c'était trop pour mon corps, c'était trop pour mon cœur, donc je me suis vraiment braquée dans toute la force de ma résistance, puis j'ai fait « Oh my God! » Comme, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je vais crever, là. Donc, mes os ne crevaient pas. Donc là, les sages-femmes, ils m'ont proposé de crever mes os, ce que j'ai accepté, j'ai aucune idée pourquoi. Donc, ils ont crevé mes os, ça n'a pas été facile. Ensuite de ça, le travail a augmenté, puis là, j'ai commencé à trouver ça vraiment comme... Je pensais pas que ça pouvait être pire, mais c'était comme devenu pire, tu sais, tout d'un coup. Donc là, j'ai regardé mon chum, puis j'ai dit à mon chum, là, tu vas appeler ma mère. Chose que je ne croyais jamais qu'elle allait être possible, parce que j'avais dit à ma mère, mais non, t'as pas besoin d'être là, je vais vraiment vivre ça comme, tu sais, avec mon amoureux. Puis dans le sens que j'étais capable d'avoir une relation, tu sais, de proximité avec ma mère, mais on était aussi capable d'avoir nos moments plus difficiles puis nos moments moins harmonieux, tu sais. Fait que c'était comme, non, non, la main, non, non, c'est beau, là. Genre, tu peux rester chez vous, là, genre, c'est ma bulle, c'est ma vie. C'est un peu arrogante de même. Donc, donc j'ai demandé à Adam d'appeler ma mère. Ma mère qui devait être tellement contente. C'est comme, OK, là, genre, je ne peux plus prendre de décision seule, comme, il faut que quelqu'un m'aide, il faut que quelqu'un me dise quoi faire. Puis Adam était tout aussi impuissant, en fait, devant toute ma souffrance, là. Donc, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me dise, OK, là, tu vas faire ça. Parce que les sages-femmes sont là, mais en bon français, sont vraiment là si ça chie. Donc, quand ça va relativement bien, que, tu sais, je vous dis, oui, ça fait mal, ben, crie, puis ça va passer, dans le sens où il était pas là en train de me coacher activement, tu sais. Puis c'est comme si je me rends compte que c'est un peu ça que j'aurais eu besoin, en fait. Donc, ma mère est arrivée. C'est ça, aussitôt qu'on l'a appelée, elle s'est dépêchée, elle a sauté dans ses jeans, comme elle disait, sauté dans son char, puis est arrivée. ma mère qui a, sur 4 accouchements, en fait, qui a eu sa première fille à l'hôpital, puis qui a eu les 3 dernières à la maison, accompagnée de sage-femme et d'un médecin. Donc, dans les années 80, moi, je suis née en 85, ma soeur en 87, mon autre soeur en 93, donc... puis la plus vieille en 81, là, mais en 80, excusez. Mais tout ça pour dire que je pense que c'était relativement moins commun, tu sais. Fait que ma mère était vraiment, c'était super facile pour elle, là, dans le sens qu'elle, elle avait accouché ses 4 filles en 12 heures total. Elle accouchait un peu comme un chat. Donc, c'est ça, elle était précurseur dans l'accouchement à la maison. Donc, c'est vraiment comme un événement avec lequel elle était super à l'aise, tu sais. Fait que là, elle est arrivée. Elle m'a rassurée, puis en jasant les 3 ensemble, bien, on a pris la décision que là, j'étais rendue à, en fait, à transférer à l'hôpital parce qu'il était rendu midi le lendemain. Donc, ça faisait déjà à peu près 14 heures, ça a commencé à 10 heures le soir, minuit, ouais, à peu près déjà comme 14 heures, puis là, ça commençait à stagner, là, tu sais, il se passait plus grand-chose. Donc, on a vraiment pris la décision active, les 3 ensemble, de transférer à l'hôpital. Le transfert a été vraiment, vraiment, vraiment ultra souffrant, là. Je me rappelle que je hurlais dans l'ambulance, puis je m'agrippais après le mur, là, tu sais, tout ça pour dire que c'était vraiment, comme, vraiment, vraiment terrible. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, la médecin est venue me voir, puis elle m'a dit, ben, t'es à 10, ma belle. Tu peux pousser. Donc, j'avais dilaté dans le transport. Je pense que c'est quand même relativement commun. Ça arrive à beaucoup de femmes, là. Dans le fond, surtout qu'il y a un déplacement ou un stress, ben, c'est comme là, le corps, il fait comme, OK, ben là, fuck off, là, faut que j'accouche maintenant. Fait que là, fiou! Fait que j'ai dilaté. Fait qu'en arrivant à l'hôpital, ben là, j'étais à 10, mais là, les contractions commençaient à manquer un petit peu de force. Moi, j'étais vraiment super épuisée. Donc, on m'a donné un petit peu d'ocytocine synthétique, de pitocin, qu'on appelle en bon français, mais je pense, je suis pas sûre que j'ai le bon terme médical, mais who cares, honnêtement. Vous allez savoir de quoi je parle. Donc, ça m'a vraiment comme. Ça a vraiment comme augmenté la petite coche là, qui me manquait là, pour avoir un petit peu plus de puissance pour mes contractions. Donc là, j'étais rendue à pousser. J'ai poussé mon beau lion d'amour pendant à peu près 2 heures et demie. Puis à la toute fin, ben là, la médecin est revenue me voir. Puis elle m'a dit, ben là, ma chérie, ça fait 2 heures et demie que tu pousses. Ton bébé n'a pas bougé. Puis là, j'étais toujours accompagnée des sages-femmes, hein, parce que dans le fond, même si tu transfères à l'hôpital, puis que ça se passe relativement bien, ben c'est les sages-femmes qui gardent le lead encore. Donc, j'étais avec Aki. Puis voilà, là, fait que la médecin arrive, me dit, ça fait 2 heures et demie que tu pousses, ton bébé n'a pas bougé. Puis là, ma sage-femme me regardait, puis elle était comme, c'est pas vrai, ton bébé il a avancé, inquiète-toi pas, tu sais, on avait vu la tête. Fait qu'elle m'a dit, ben si dans 15 minutes, il n'est pas sorti, je vais t'aider. Et ça a été très simple. Et je remercie cette médecin dont j'ai oublié le nom d'être venue chercher toute la colère qui me restait à l'intérieur de moi, que j'avais absolument contre le système médical. J'ai dit, toi, ma tabarnak, tu toucheras pas à mon bébé, puis je finirai pas en césarienne. Et j'ai sorti la grosse tête à Léon. Léon qui est sorti comme un petit poisson, tout d'une traite. Ploup! Donc, c'est ça. Fait que j'ai senti aussi l'anneau de feu. Ça, les filles, quand la tête du bébé passe par là, on sent un anneau de feu. Et quand on sent ça, on peut se dire que c'est pratiquement presque terminé. Donc, il y avait ma cousine qui m'avait parlé de cet élément-là que je me rappelais. Donc, quand j'ai senti l'anneau de feu, j'ai fait « Oh yes! C'est presque fini, genre là, je suis pas été capable. » Donc là, j'ai accueilli mon beau Léon, je l'ai pris dans mes bras. Il avait l'air d'un petit elfe avec ses petites oreilles et son nez tout parfait. Il était beau, 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 beau. J'avais vraiment l'impression comme de le reconnaître. Puis là, ben, c'est sûr que c'est comme un moment tellement, tellement comme grandiose et émotif que juste de vous en parler, j'ai les yeux pleins d'eau, mais bref. Donc voilà, fait que j'avais. Finalement réussi, il était rendu 17 h le samedi, donc ça m'a pris à peu près comme 18-19 h, vraiment, à processer ce phénomène, en fait, à vraiment comment accoucher de mon premier fils. Donc, après ça, on a simplement, comme ils ont examiné le bébé, on avait demandé de ne pas le laver parce que. C'est bon que le bébé comme reste avec t'sais, son univers bactérien à lui. Donc, on attend quelques jours. Je pense qu'on avait attendu comme 3-4 jours, je pense, avant de le laver, de lui donner vraiment son premier bain. Puis, on a signé vraiment comme une décharge, là. C'était comme un refus de soins, je sais pas trop quoi. Puis, on a vraiment juste quitté l'hôpital, je pense, 2 ou 3 heures là, après. Donc voilà. Fait que ça, c'était vraiment ma première expérience au niveau de l'accouchement. Donc ça s'est relativement bien passé, mais j'ai quand même cru que j'allais mourir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment comme important qu'on se raconte ces histoires-là. Puis je pense qu'avant d'avoir un enfant, c'est un peu difficile. Des fois, d'écouter les histoires des autres parce qu'on n'a pas vraiment de point de repère, on ne sait pas trop. Mais c'est sûr que moi, j'avais entendu, tu sais, mais premièrement, j'avais assisté à la naissance de ma petite sœur quand j'avais 8 ans. Bon, je sais plus ce que je disais. Mais bref, c'est pas grave. Ah oui, que ma petite sœur, c'est ça. Dans le fond, que j'avais assisté à l'accouchement de ma petite sœur. Donc, c'est ça. J'avais déjà les oreilles un peu ouvertes, t'sais, mais pas tant que ça. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs prises de conscience, en fait. Ça m'a amené aussi une genre de transformation, une genre d'ouverture à me dire, aïe, aïe, mon corps contient tellement d'informations, comme c'était là. Puis en fait, c'est que je le savais que mon corps contenait ces informations-là. Mais j'avais comme, on dirait, jamais porté tant d'attention. Tu sais, il y avait des postures d'ouverture en yoga que j'arrivais pas à faire. Ça me faisait monter des pics d'anxiété. Tu sais, ça me déclenchait de l'anxiété carrément, là. Juste avoir les jambes en ouverture. J'étais comme, mon Dieu! Donc, c'est ça. Fait que je me suis rendu compte à quel point mon corps contenait des messages importants, puis contenait comme un savoir inestimable. Donc là, quelques mois après, je suis tombée enceinte de Louve. Louve qui est née le 16 mars 2017. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, à 13 semaines, ça c'est un autre sujet. Bref, mon fils ne dormait pas, donc quand je me suis rendue compte que j'étais enceinte, j'étais déjà à 13 semaines parce que j'étais tellement affectée par le manque de sommeil que je me disais, oh, j'ai mal au cœur, je me sens vraiment comme lâche, j'ai pas envie de rien faire, mais ça doit être parce que je suis tellement fatiguée, parce que je dors 3 heures d'affilée puis je me fais réveiller depuis plus d'un an. voilà, fait que bref, Louvre est arrivé un peu comme une belle surprise, en fait. Donc, je me suis préparée différemment. Je savais pas que ça allait être une petite fille. On a gardé la surprise pour l'accouchement. Mais on avait choisi le nom d'avance. On avait choisi un nom de petit gars que j'oublie, puis on avait choisi le nom de Louvre, que j'adore. Et que c'est aussi une raison pour laquelle je veux tellement partager ces histoires-là. C'est vraiment pour les femmes qui nous suivent, pour les petites filles qui arrivent aujourd'hui, puis qui, j'espère, vont grandir dans un monde féminin vraiment différent de celui dans lequel on a grandi. Vraiment avec plus de sororité, plus d'ouverture, plus d'accueil de leur corps, moins de résistance, plus de flow. C'est vraiment ça que je leur souhaite. Puis l'accouchement s'est fait vraiment d'un angle différent. Premièrement, je suis allée me chercher une doula. Natacha, si t'écoutes ça, coucou, bonjour. Merci d'avoir été là pour me soutenir, même au long de la grossesse, puis aussi pendant l'accouchement. Donc, merci pour ton beau travail. Je me suis vraiment préparée différemment. J'ai lu, j'ai écouté des podcasts de femmes. Tu sais, les femmes qui vont encore plus loin. Moi, je me disais, oh yes, tu sais que je suis wild, j'accouche à la maison de naissance. J'ai écouté un podcast avec une fille qui a eu des jumeaux dans la jungle au Costa Rica, tout seule avec son chum, puis qu'elle savait pas qui ne savait pas qu'elle attendait des jumeaux. Donc, j'ai écouté l'histoire de naissance de cette femme qui m'a vraiment, qui s'est vraiment venue me reconnecter avec ma puissance intérieure. Fait qu'après ça, ça prend pas comme 42 livres puis comme 1 million de podcasts. Tu sais, tu vas écouter un message, une affaire qui va faire en sorte que tu vas te dire, aïe, aïe, moi, avec, je suis capable. C'est beau. Je reviens là dans mon pouvoir personnel, je reviens dans ma puissance. Puis tu sais, c'est le deuxième, les premiers deuxièmes chakras, c'est ça, hein? Donc le bébé il est vraiment porté par cette espèce de force primale. C'est un mot? Primaire, en tout cas. Cette espèce de force là, t'sais, qui est le deuxième chakra de la créativité, de la fécondité, de la famille, bref. Et vraiment baigné là-dedans. Donc, moi, j'ai eu besoin, pendant ma grossesse, de venir me reconnecter avec ça, avec des femmes qui avaient dépassé ce que moi, j'allais être capable de faire. mais qui me redonnait vachement confiance. Okay? Donc, quand ça a été le moment d'accoucher de ma fille, j'avais vachement plus confiance. Premièrement, je savais que mon corps était capable de le faire. Je savais à l'intérieur de moi que je pensais que j'allais mourir, mais que j'allais pas mourir. Mais je savais que j'allais le penser. Fait que j'étais capable de jouer un tour à mon cerveau, puis de me dire, Lison, tu sais que tu vas penser que tu vas mourir. Tu vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Puis je me répétais ça pendant le travail, puis pendant les vagues de contraction, puis je ne vais pas mourir. Mon corps sait quoi faire, je ne vais pas mourir. Puis je me répétais quelque chose que je pense que j'ai pris du livre du moment présent de Eckhart Tolle. Puis je me disais, en ce moment, tu vis l'accouchement, t'es dedans, t'as pas le choix. Même si tu veux être ailleurs, même si tu veux que ça fasse pas mal, t'as pas le choix, t'es dedans là. Fait que embrasse-le, vis-le, puis bientôt tu vas être dans le après. Fait que je me raccrochais à l'idée qu'à un moment donné, mon moment présent n'allait plus être des contractions ultra douloureuses, ça allait être d'être couchée dans le lit en train d'allaiter mon bébé. Donc, je me raccrochais, j'accrochais mon mental. C'est comme si j'avais mis une guirlande dans mon mental, dans mes pensées, pour me dire, je vais être rendue le money. Ça s'en vient, lâche pas ma belle, je vais être rendue le money. Puis, ben, j'avais mon chum et Natacha aussi qui étaient là pour me verbaliser ça tout au long du processus. T'es capable, lâche pas, ça va bien. Continue. Donc, c'est ça. Donc, j'avais vraiment aussi les bonnes personnes avec moi qui étaient là. Puis, j'avais tellement confiance. Puis, ça, c'était quelque chose que j'avais parlé à ma sage-femme parce que j'ai eu le bonheur d'avoir la même sage-femme aux deux accouchements. J'avais parlé avec ma sage-femme et je lui avais dit que pour moi, le plus important, c'était de rester dans ma bulle. C'est ça qui favorise les hormones de l'accouchement. C'est des petites lumières tamisées, de rester dans sa bulle, d'avoir son chum à proximité. Fait que j'avais dit, si t'es pas obligé de me faire un examen, tu ne m'en fais pas. Donc, elle savait déjà dans quel état d'esprit j'allais être. Puis, j'ai réussi à garder cet état d'esprit-là parce qu'elle venait me voir des fois tout doucement à l'oreille. Elle me disait, est-ce que tu veux que je t'examine? Je disais, pas maintenant, peut-être plus tard. Puis, finalement, on n'a jamais eu besoin de le faire. Donc, j'avais réussi vraiment à connecter avec cette sagesse intérieure-là. Je pense que j'ai même écrit un article pas longtemps avant, un petit peu pour sortir, je pense qu'il est sur mon site web, ouais, il est sur mon site web, un peu pour sortir ma peur, puis en fait demander l'aide de mes ancêtres, de mes guides, demander l'aide vraiment du monde énergétique, du monde intangible, qui pour moi l'est de plus en plus. Donc, je sentais cette présence réconfortante qui veut que la vie fleurisse. Je les sentais, ils étaient là avec moi, puis c'était comme, on tient la main, tu sais, puis on va t'aider, puis tu vas passer au travers. Donc cet accouchement-là a été vraiment plus doux. C'est drôle parce que c'est vraiment à l'image de ma fille. Mes deux histoires d'accouchement sont exactement parfaites quand je regarde mes deux enfants aujourd'hui. Vraiment à la grandeur de leur personnalité puis de leur âme, en fait. Puis quand je regarde, c'est ça. Fait que là, dans le fond, pour faire un petit résumé, là, court, là, des étapes au travers desquelles je suis passée, le travail a commencé pour ma fille le samedi matin vers 4 h du matin. Puis là, j'ai été en latence. Fait que c'est-à-dire que j'ai eu des contractions à peu près comme aux 20-25 minutes toute la journée. Mon fils se faisait déjà garder parce que je savais que j'avais des bébés ponctuels. Fait que j'avais prévu le coup. Léon, qui avait 25 mois. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu des contractions toute la journée aux 20 minutes. Fait que j'ai pu me reposer, j'ai pu manger, j'ai pu comme, tu sais, continuer à me reposer vraiment. Puis là, j'ai eu trois contractions rapprochées. Puis c'est même mon chum qui a fait, oh, OK, là, non, ça fait trois contractions, t'as 5 minutes, là, je vais appeler. Fait qu'on a appelé, on leur a donné rendez-vous à la doula. Je pense à comme 6h30 le soir, quelque chose comme ça. Fait que tout le monde est arrivé à la maison de naissance un samedi soir. Mes deux enfants sont nés un samedi soir. Donc, on avait la maison de naissance à nous tout seuls. On était dans la même chambre qu'à l'accouchement de Léon. Puis, aussitôt que je suis arrivée, puis que j'ai vu Natacha, ma doula, puis les sages-femmes, on dirait que j'ai su, je me suis vraiment sentie comme en sécurité, puis j'ai pu vraiment m'abandonner à ce qui allait se passer. En fait, c'est un drôle de sentiment. Puis là, je vous le dis, puis je suis comme full émue. C'est comme si j'avais l'impression que là, c'est comme, OK, j'allais pouvoir me laisser aller. Finalement, j'avais comme attendu toute la journée, mais là, ça allait être maintenant. Puis c'était correct. Puis j'étais prête. Puis j'étais forte. Puis j'étais puissante. Puis ça allait le faire. Tu sais, comme mon corps savait. Donc, quand je suis arrivée, mais c'est ça, il y a quand même une partie qui est si importante à faire décrocher le mental. C'est incroyable à quel point le mental veut garder le contrôle. Puis je me rappelle, je me disais, OK, je vais faire mes mantras, je vais faire mes om. Puis même un om, c'était trop aigu pour ce que mon corps avait besoin d'évacuer comme son pour me grounder puis me faire que les contractions étaient vraiment plus basses. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté la même chose, mais dans le sens que si tu cries et que tu vas vraiment chercher des notes aiguës, on dirait que ça fait plus mal. Tandis que si tu fais un son vraiment plus tribal, plus animal, plus dans la terre, là, un son vraiment plus grave, c'est comme si ça vibre, puis on dirait que ça l'envoie une partie de l'énergie de la contraction dans la terre. Donc, cue. Pour vous, les femmes qui vont accoucher, essayez vraiment, c'est ça. Fait que le home, mon mental essayait de me dire, fais des home, ça va te faire du bien, ça va te grounder, nanana. Je suis comme bullshit, ça marche pas. Puis là, il a fallu que Natacha vienne me voir puis qu'elle me dise, hey, sais-tu quoi? Tu peux crier, genre, t'as le droit. Prends ta grosse voix, là, d'animal, puis crie. Donc là, il faut carrément s'accorder le droit et enlever tous les conditionnements qui nous empêchent de redevenir un mammifère. Parce que pendant cette période-là de notre vie, c'est ce qu'on est. On est un mammifère qui met bas. On doit se déconditionner. On doit arrêter d'écouter l'extérieur et on doit juste suivre le flot de notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous dit de faire? Donc, moi, j'avais pas de problème avec la nudité. Aussitôt que comme je savais que j'allais être sur le bord à accoucher, on dirait qu'il y a une coche qui sautait dans ma tête. T'sais, habituellement, je suis quand même quelqu'un de relativement. Ben, je pense, un peu pudique, là. Puis là, c'était vraiment pas grave, là, dans le sens où je me mettais tout nu devant tout le monde, j'en avais vraiment rien à foutre. Donc, voilà. Fait que la seconde où est-ce que j'ai accepté, où je me suis rappelée que, dans le fond, j'étais carrément un mammifère qui allait avoir un enfant, hein, qui allait donner la vie, on dirait que ça a été tout d'un coup plus facile, OK? Donc, j'ai senti mes os crever dans le bain, ça a fait un gros poc. Fait que mes os ont crevé de façon naturelle. Après ça, j'alternais. Il faisait comme trop chaud pour être dans le bain, là, je devenais comme inconfortable. Donc, j'étais dans le lit, j'alternais dans le lit. À un moment donné, j'ai senti là, comme que peut-être que j'avais envie. Donc, j'étais allée sur la toilette. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, le bébé va sortir sa toilette comme ça n'a pas d'allure. J'ai vraiment envie de pousser, tu sais. Puis tout le long, les sages-femmes m'avaient jamais, ils n'avaient jamais mesuré l'ouverture de mon col. Donc, je me suis foutue à quatre pattes. Et là, c'est très drôle parce que j'avais le devant de mon corps dans la salle de bain et les fesses à l'extérieur de la salle de bain. Alors, j'étais genre, ben, guys, arrangez-vous, genre, ceux qui travaillent, qui sont autour de moi, parce que c'est là que je vais l'avoir, mon bébé. J'en suis là, puis je ne bouge plus d'un cheveu. Donc, j'étais à quatre pattes, avec mon chum en avant de moi qui me tenait les mains, la sage-femme en arrière avec sa lampe de poche, parce qu'il faisait quand même noir. Puis, là, j'ai eu mon moment de résistance Ou est-ce que je me disais, oh my god, faut comme que tu lâches prise, tu sais, puis que là, faut vraiment que ça sorte. Mais là, la sage-femme, elle m'a donné un super bon truc. Elle m'a dit, Lison, va voir où est-ce qu'est ton bébé. Donc, j'ai rentré ma main, puis je suis allée toucher à sa tête. Puis là, c'était vraiment comme la texture d'un œuf cuit dur. C'était comme un peu mou. C'était vraiment bizarre. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, il est donc bien proche. Genre, je vais arrêter de niaiser, là, comme s'il est quasiment sorti, là, let's go. Fait que là, j'ai dit, tu vas-tu l'attraper? Elle était comme, oh oui, c'est beau, je suis là, je m'en occupe. Donc, j'ai poussé, la tête est sortie. À l'autre contraction, j'ai poussé, les épaules sont sorties. Puis là, ben, j'avais ma petite fille. Fait que là, je l'ai pu. La sage-femme l'a pris par en arrière. Elle me l'a swingé entre les jambes. Je l'ai pris dans mes bras. Puis là, on a regardé avec la lampe de poche si c'était un petit gars ou une petite fille. Puis là, je voyais tellement rien. J'étais tellement énervée. Puis c'est comme la vulve vient comme gonfler, là, en fait, quand un bébé vient au monde. Puis là, j'avais l'impression de voir un petit pénis avec deux testicules, tu sais. Mais dans le fond, c'était juste des lèvres qui étaient bien gonflées. Fait que là, j'étais comme c'était un gars. Puis tout le long, j'avais imaginé que ça allait être un garçon parce que je voulais pas être déçue si jamais c'était un gars. Fait que je m'étais mis dans la tête que ça allait être un gars. Puis là, quand j'ai vraiment réalisé que c'était une petite fille, ben là, j'avais pas de mots. J'étais tellement contente. Ça voulait dire tellement pour moi de réussir à mettre une fille au monde. C'était vraiment beau pour moi. Puis je dois dire que le portail énergétique dont je vous parlais au début a duré quand même un bon moment après l'accouchement. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dehors, peut-être un mois après avoir accouché, puis je méditais. Puis j'avais l'impression qu'il y avait une foreuse qui était passée au travers de mes trois derniers chakras. Puis qu'il y avait vraiment quelque chose dans ma physiologie énergétique, je sais pas comment dire, dans ma médecine énergétique qui avait carrément débloqué. Fait que c'est comme si, dans le fond, les deux accouchements m'avaient amené des clés de guérison super importantes pour mon histoire à moi, pour mon corps à moi, pour mon transgénérationnel à moi. Donc, beaucoup de clés au niveau de la résistance pour le premier, au niveau de l'endurance aussi. Puis beaucoup de clés au niveau de l'incarnation de sa puissance, du laisser-aller, de la douceur, puis de la connexion au monde énergétique, puis de la connexion aux ancêtres, pour tout ce qui était de ma fille. Donc, le féminin qui est passé au travers du féminin a été pour moi d'une puissance incomparable. Puis ça fait maintenant 2 ans et 4 mois que je surfe sur cette espèce de vague de transformation. Donc, pour toutes celles qui ont écouté, j'espère que vous avez trouvé des clés de guérison, que vous avez trouvé des petites parcelles de choses qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider au travers de votre processus. Je vous souhaite la plus belle histoire d'accouchement au monde. Je vous souhaite d'aller à la découverte, en fait, de ce côté-là, peut-être un peu plus sauvage, un peu plus mythique de l'histoire de la femme. Puis je vous souhaite de vraiment vous recalibrer puis vraiment connecter avec votre vraie puissance.